Vous écoutez Radio France Internationale, il est 1h du matin à N'Djamena, minuit en temps universel.
Diane Berger.
Ce tournant des relations franco-tchadiennes, le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec Paris. Nous faisons le point sur ce que l'on sait dans un instant avec Magali Lagrange. En Syrie, plus de 200 morts dans des affrontements violents entre l'armée de Damas et des rebelles djihadistes dans le nord du pays. Deuxième jour de cessez-le-feu au Liban et déjà des accros. Beyrouth accuse Israël d'avoir violé à plusieurs reprises l'accord de trêve. Et puis en Australie, les ados sur TikTok, c'est fini. Le pays vient d'adopter l'une des législations les plus strictes du monde au sujet des réseaux sociaux, désormais interdit aux moins de 16 ans. La fin des accords de coopération de sécurité et de défense entre le Tchad et la France. N'Djamena vient de l'annoncer, c'est dans un communiqué signé par son ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Magali Lagrange.
Bonsoir Diane.
Cette déclaration a été faite quelques heures après la fin de la visite sur place de son homologue français Jean-Noël Barrot.
Oui, le Tchad met effectivement fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France, révisé en 2019, sans pour le moment donner plus de précisions sur ce qu'implique la rupture de cet accord. Le communiqué précise que cette décision est prise par le Tchad après analyse approfondie, qu'elle marque un tournant historique 66 ans après la proclamation de la République. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, peut-on lire. Le ministre tchadien des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamallah estime que le Tchad veut évoluer, mais que la France reste un partenaire essentiel. N'Djamena assure que les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis, seront respectées et se dit ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. L'annonce n'a pas été faite, Diane, vous l'avez dit, pendant la visite de 24 heures du ministre français des Affaires étrangères au Tchad, mais quelques heures après son départ.
Merci beaucoup Magali Lagrange. La coopération avec la France questionnée dans un autre pays d'Afrique. Je cite le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, la souveraineté ne s'accorde pas de la présence de bases militaires. Une déclaration faite auprès de plusieurs médias français alors que 350 soldats français sont déployés dans son pays. À la question de savoir si ces soldats doivent partir, le chef de l'État a répondu qu'il n'y avait pas encore de délai. Je le cite, si cela doit être fait, ce sera dit aux autorités françaises suivant le calendrier établi. Bassirou Diomaye Faye, qui est également revenu sur un autre dossier sensible pour Paris et Dakar, il a reçu une lettre d'Emmanuel Macron dans laquelle le président français reconnaît le massacre de Tiaroy à quelques jours des commémorations de ce drame. Le 1er décembre 1944, les forces coloniales ont tiré et abattu plusieurs dizaines de tirailleurs africains. En Syrie, les djihadistes vont-ils prendre le contrôle d'Alep ? Les affrontements, en tout cas entre l'armée de Bachar el-Assad et les rebelles, ont fait plus de 200 morts depuis hier, mercredi. Les djihadistes tentent d'élargir leur territoire depuis la ville d'Idlib et il s'agit des combats les plus violents sur cette zone depuis 4 ans, Théo Renaudon.
Alep, 2 millions d'habitants voient la ligne de front se rapprocher. Plus que quelques kilomètres maintenant entre son centre-ville et les rebelles du HTS. Un groupe salafiste estimé à plusieurs milliers de combattants qui affrontent pour la première fois depuis 4 ans les soldats du régime syrien de Bachar el-Assad. Drones suicides, pick-up d'hommes armés. L'attaque est fulgurante, de nombreux villages sont tombés. Une route stratégique est bloquée, la route M5, qui relie Alep à la capitale syrienne Damas. Leur objectif ? Faire tomber Bachar el-Assad et instaurer un califat. Certains de ces groupes bénéficient de l'aide tacite de la Turquie. De l'autre côté du front, les soldats du régime perdent du terrain. Ils ont pourtant avec eux l'aviation russe alliée de Bachar el-Assad et les milices pro-Iran. Un combattant des gardiens de la révolution a d'ailleurs trouvé la mort dans les combats. La situation sur place évolue très rapidement. Impossible de dire si les djihadistes feront ou non leur entrée dans Alep dans les prochaines heures.
Théo Renaudon, le cessez-le-feu déjà bien ébranlé au Liban, Beyrouth accuse en effet l'État hébreu d'avoir violé à plusieurs reprises l'accord de trêve. L'armée israélienne a annoncé de son côté une frappe dans le sud du Liban contre une installation du Hezbollah, le mouvement armé allié de Téhéran. Et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, menace de mener une guerre intensive si son ennemi reprend les hostilités. Par ailleurs, à Gaza, la situation est toujours catastrophique, prévient l'OMS, l'organisation l'Organisation mondiale de la santé, en particulier dans le nord de l'enclave palestinienne, touchée par de graves pénuries de médicaments et de nourriture. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie européenne exhorte la communauté internationale à respecter la CPI, la Cour pénale internationale, déclaration alors que la veille, la France a fait valoir une immunité pour Benjamin Netanyahou, poursuivi, on le rappelle, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le Premier ministre israélien taxe, lui, la CPI d'antisémitisme, mais pour Joseph Borrell, il en va surtout de l'ordre international.
Je veux lancer un appel à tous les membres de la communauté internationale et en particulier aux membres de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas affaiblir la Cour pénale internationale. C'est le seul moyen d'obtenir une justice mondiale. C'est le seul moyen de mettre en œuvre l'obligation de rendre des comptes. L'accusation d'antisémitisme est une fois de plus vide de sens. Cessez de vous cacher derrière l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Il s'agit de rechercher la justice sur la scène mondiale. For justice
at the global stage. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. 19h06 à Washington, aux États-Unis, où de nombreuses familles préparent en ce moment le repas de Thanksgiving. Et l'équipe de Donald Trump prépare quant à elle son arrivée au pouvoir. Prise de fonction le 20 janvier prochain à la Maison-Blanche. Et dans ce contexte, la porte-parole de la campagne du Républicain annonce que plusieurs futurs membres de l'administration Trump ont reçu des menaces, voire des alertes à la bombe. Les forces de l'ordre sont intervenues dans plusieurs domiciles. Rien n'a été trouvé pour l'instant, Edouard Maille, mais le FBI prend la situation très au sérieux.
Plus de peur que de mal, aucun incident n'est à déplorer, mais plusieurs républicains ont raconté les menaces qu'ils ont reçues. Pete Hegseth, nommé pour être ministre de la Défense, a expliqué sur le réseau social X qu'un policier est arrivé chez lui pour une menace à la bombe, alors que ses 7 enfants dormaient encore, a-t-il écrit. Une histoire similaire pour l'élu au Congrès Elise Stefanik, nommée ambassadrice à l'ONU, prévenue par les forces de l'ordre d'une alerte à la bombe à son domicile, alors qu'elle était en route, justement, pour rentrer chez elle avec sa famille. L'origine de ces menaces est inconnue, mais Liz Eldin, nommée pour être le chef de l'Agence de protection de l'environnement, a dit avoir reçu une menace à la bombe accompagnée d'un message pro-palestinien. La campagne présidentielle avait déjà fait l'objet d'un niveau historique de violence avec 2 tentatives d'assassinat contre Donald Trump. Et cette semaine, un homme a été arrêté en Arizona pour avoir publié en ligne des vidéos avec un fusil semi-automatique où il menaçait de tuer Donald Trump et des membres de sa famille. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Les dernières sanctions américaines poussent le Venezuela à durcir sa législation. Les députés viennent en effet d'adopter une loi qui punit le soutien aux sanctions internationales contre le régime de 25 à 30 ans de prison. Le texte prévoit aussi des amendes dépassant le million de dollars, 4 mois après la réélection contestée du président Nicolas Maduro. Face au risque de créer des ados accros aux réseaux sociaux, l'Australie fait un choix radical. Il opte pour l'une des législations les plus strictes du monde. Selon la nouvelle loi qui vient donc d'être adoptée par le Parlement australien, les jeunes de moins de 16 ans n'ont plus accès à ces sites, Pierre-Olivier.
TikTok, Facebook, X ou encore Instagram devront désormais s'assurer que les adolescents australiens de moins de 16 ans ne puissent pas créer de compte. Pour y parvenir, chaque plateforme pourra utiliser les moyens qu'elle souhaite pour contrôler l'âge, pourvu qu'il soit efficace. Car en cas de non-respect de cette obligation, le texte prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars australiens, soit 37 millions d'euros. Les géants du web ont 1 an pour se conformer à cette nouvelle loi. Une décision du Parlement australien vivement saluée par le Premier ministre de centre-gauche, pour qui les réseaux sociaux sont une source d'anxiété qui favorise la pression sociale et constitue un outil pour les prédateurs en ligne. Le chef du gouvernement qui dit préférer que les jeunes lâchent leur téléphone et aillent plutôt à la piscine. Un point de vue pas franchement partagé par les géants d'Internet. X, qui appartient au milliardaire Elon Musk, a fait valoir que cette loi pourrait porter atteinte aux droits des enfants. Les plateformes comme WhatsApp ou YouTube, dont les jeunes peuvent avoir besoin pour leurs devoirs, ne sont, elles, pas concernées.
Pierre-Olivier, l'Espagne instaure un congé payé climatique. 4 jours sans travail en cas d'alerte liée à un risque météo, mesure adoptée par le Conseil des ministres 1 mois après les inondations meurtrières qui ont ravagé le sud-est du pays. On le rappelle, le bilan est de 230 morts. Plusieurs entreprises avaient été très critiquées car elles avaient demandé à leurs salariés de rester à leur poste malgré l'alerte rouge de l'Agence météorologique nationale. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, couleur tropicale sur RFI.